9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Le retour du 49-3 cette semaine à l'Assemblée le signal que les choses ont changé pour le président de la République. Mais ce n'est pas le seul. Didier Mauss va nous faire une petite visite guidée des nouvelles règles de notre vie politique. Je recevrai ensuite Maurice Gourdeau-Montagne. Il a été conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Élysée, ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine et secrétaire général du Quai d'Orsay. Les crises internationales auxquelles la France est confrontée aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'Allemagne, avec la Russie à propos de l'Ukraine, avec la Chine et les États-Unis à propos de Taïwan, il va nous les expliquer avec diplomatie. Et l'on terminera l'émission avec Sylvie Maton. Il y a 50 ans exactement, une femme de 35 ans, Danielle Cravanne, détournait un avion armé d'une carabine et demandait que soient retirées des salles les aventures de Rabbi Jacob, le film dont son mari, Georges Cravanne, était l'attaché de presse. Ce serait drôle si ça ne s'était pas terminé par la mort de Danielle Cravanne, abattue par la police. 50 ans après, Sylvie Maton, qui était son ami, veut rouvrir le dossier.
Europe 1.
Didier Mauss, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été président de l'Association française de droit constitutionnel, rapporteur général de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République. Vous avez été professeur de droit constitutionnel et de droit parlementaire à la Sorbonne. J'ajoute que vous êtes membre du Parti radical, qui est le plus ancien parti politique français, fondé en 1901. Alors le 49-3, ça fait toujours mauvais effet hein, quand on l'utilise, comme l'a fait Elisabeth Borne cette semaine. C'est synonyme de passage en force. Or, elle va être obligée de l'utiliser plusieurs fois. Hein. Rien que pour ce budget, les Français vont devoir s'habituer.
Les Français vont devoir s'habituer parce que c'est une procédure normale. C'est une procédure constitutionnelle. Pour comprendre l'article 49 alinéa 3, il faut toujours savoir d'où il vient. Et il vient en réalité des échecs de la 4e République. À la fin de la 4e République, c'est-à-dire 1956-1958, il y avait des situations où l'Assemblée nationale refusait les projets de loi du gouvernement mais ne le renversait pas à une majorité telle qu'on puisse mettre en route une procédure de dissolution. Et en réalité, on a cherché à lier deux éléments importants, c'est-à-dire le vote des projets de loi et la responsabilité du gouvernement. Et derrière la responsabilité du gouvernement, il faut toujours savoir que si celui-ci est renversé, il y a le risque d'une dissolution. Alors, il ne faut pas croire du tout que c'est né comme ça. Je dirais, le 49 alinéa 3, il est dans le projet de révision de la Constitution de Félix Gaillard en janvier 1958 et il traverse, je dirais, tout à fait cette période. Il est repris en juin-juillet 1958 dans le projet de Constitution et en même temps, on sait que Michel Debré, qui était garde des Sceaux, qui est celui qui a porté la Constitution pour le général de Gaulle, était très réservé sur cet article 49 alinéa 3, contrairement à la légende, mais à l'inverse, ceux qui avaient une vraie expérience du gouvernement, Guy Mollet, Pierre Fimelin par exemple, étaient extrêmement favorables. Alors il ne faut pas croire du tout que c'est né comme ça d'un mauvais cerveau. Alors pourquoi est-ce qu'on l'utilise plusieurs fois? Parce que quand vous l'utilisez en première lecture, ce qui est le cas aujourd'hui par exemple sur le budget ou sur la loi de financement de la sécurité sociale, vous l'utilisez sur les lectures successives, c'est parfaitement normal. Et d'ailleurs, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas d'émotion de censure déposée à chaque fois parce que ça devient lassant et puis il y a un moment où on n'a plus rien à raconter. Hein, voilà.
Donc 6 ou 8 fois à peu près, il faut s'attendre hein, là, rien que pour le budget.
C'est là, il y a la première partie, il y a la totalité, il y a après CMP parce que la CMP ne devrait pas marcher, il va y avoir en dernière lecture, mais je dirais, ça
c'est pas grave.
Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça va gonfler les statistiques et on va vous dire, non, en réalité, il y a un seul cas qui est significatif. C'est le premier sur chaque texte. Le reste, c'est de la procédure normale.
Didier Mauss, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027. Qu'est-ce que ça change?
Ah ben ça change beaucoup de choses. Si vous voulez, le système politique français, depuis pas mal de temps, est organisé autour de l'élection présidentielle et encore plus depuis la révision qui nous a fait passer de 7 ans à 5 ans la durée du mandat du président de la République. C'est-à-dire que tout s'organise autour de lui en fonction de l'élection présidentielle suivante et notamment tout ce qui concerne la vie des partis et des investitures. Or là, pour la première fois, c'est-à-dire on expérimente un président de la République dans son second mandat qui n'a pas une vraie perspective, une impossibilité même, de se représenter. C'est très différent de Chirac qui avait fait un second mandat, qu'à un quart. Là, on sait très bien qu'en 2027, Emmanuel Macron non seulement ne sera pas candidat, mais ne sera pas le leader d'une formation politique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Un certain nombre d'hommes et de femmes politiques cherchent à savoir qui sera le vrai leader de leur camp, Il y en a plusieurs, pour la prochaine fois, et notamment dans le camp d'Emmanuel Macron. Il a perdu, je crois, le lendemain sa réélection, comme d'ailleurs on le voit souvent aux États-Unis, une force d'attraction sur ses propres amis, sur sa propre majorité. C'est un peu une déliquescence. Alors, il va essayer, incontestablement, de leur dire « Non, vous avez besoin de moi », etc. Mais il y a quand même une spécificité. C'est que Emmanuel Macron n'est pas le leader d'un parti politique. Il n'y a pas de parti politique macroniste, on a beau dire tout ce qu'on veut. Moi, j'en ai jamais rencontré sur le terrain. J'ai été élu local. Donc, ce n'est pas ce parti qui peut se dire on a besoin d'Emmanuel Macron encore aujourd'hui. Non, on ne sait pas ce qu'il fera. Mais attention, il peut se représenter en 2032. Il n'a pas le droit en 2027, mais il peut se représenter en 2032. Et il a commencé à laisser entendre une petite musique. N'oubliez pas, d'abord que je serai encore très jeune, hein, il aura une cinquantaine d'années, et donc en 2032, je serai peut-être encore avec vous. Alors n'en faites pas trop en dehors de moi.
Oui, ce sera peut-être lui qui donnera les investitures à l'époque, en 2032, hein, pour les futurs députés.
L'avenir n'est inscrit nulle part.
Quand le président ne dispose que d'une majorité relative, comme c'est le cas aujourd'hui, on a l'impression que c'est Matignon qui joue tout à coup le rôle de pivot et s'en trouve renforcé.
Écoutez, un, c'est la logique du régime parlementaire. Or, la Constitution de 1958, quoi qu'on dise, est un système parlementaire. Car on ne peut pas gouverner sans avoir la confiance de la majorité des députés. Ou du moins, on ne peut pas gouverner sauf si on est renversé par une majorité. Bon, donc, on est dans un régime parlementaire. Alors, c'est vrai que le président de la République nomme le Premier ministre et le gouvernement, qu'il y a dans la Constitution cette phrase que l'on oublie un peu, à l'article 20, « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». C'est une grande nouveauté par rapport à ce qu'on avait connu antérieurement. Bon, je dirais, c'est le gouvernement, avec le président de la République, qui a cette responsabilité fondamentale de la chose publique, de l'action publique pour l'avenir. Alors, c'est normal que dans une situation un peu difficile, ce soit le Premier ministre qui soit à la manœuvre. C'était déjà le cas, par exemple, avec Michel Rocard en 1988. Il y avait beaucoup de choses autour de lui. Mais rassurez-vous, et on rassure ceux qui nous écoutent, aucune décision importante du Premier ministre n'est prise sans l'accord du président de la République. Et je me rappelle à cet égard une phrase de François Mitterrand du temps où Édith Cresson était premier ministre, on ne disait pas encore première ministre à l'époque. Et François Mitterrand avait dit, quel que soit celui de nous deux qui annonce des mesures, il évoquait à ce moment-là un programme pour les PME, PMI, ce qui n'était pas tout à fait la tasse de thé de François Mitterrand. Donc c'est Édith Cresson qui avait été à la manœuvre. Il dit, soyez rassurés, on ne dit jamais rien sans mon accord.
On fait une pause, Didier Mauss, on se retrouve juste après. Il y a encore d'autres signaux, hein, on va le voir, qui montrent que c'est une nouvelle vie politique qui est en train de s'organiser.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Didier Mauss, qui est un spécialiste du droit constitutionnel, mais aussi du droit parlementaire et, pour résumer, de toute notre vie politique. Alors, on a entendu beaucoup d'invectives entre parlementaires. Hein. Yael Braun-Pivet, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, a dû sanctionner des députés. Le niveau des insultes reste quand même très en dessous de ce qu'on connaissait autrefois sous la 3e ou sous la 4e République. Hein.
Écoutez, moi, je ne sais pas très bien comment on mesure le niveau des insultes. Je veux dire, je n'ai pas un baromètre des insultes. Ce qui est vrai, c'est que l'insulte a toujours fait partie du vocabulaire politique, et notamment du vocabulaire politique de ceux qui sont sur les bordures d'extrême droite ou d'extrême gauche. Quand vous reprenez les dialogues, par exemple, de la 4e République, c'est extraordinaire. Voilà. Quand Guy Mollet disait du Parti communiste, le Parti communiste n'est pas à gauche, mais à l'Est, c'est quand même pas d'une amabilité débordante. Bon, un jour, sur la 3e République, il y a un président du Conseil qui a dit à un membre de la Chambre des députés « Monsieur, vous êtes un gredin ». Bon, voilà, je ne sais plus quand, mais peu importe. Bon, on n'en est pas tout à fait là. Mais c'est normal, j'allais dire, que lorsque la situation politique se tend, et elle est tendue aujourd'hui, il y ait un discours plus radical, pas au sens du parti radical que vous évoquiez, mais au sens de radicalisation, parce qu'il y a un moment où on est quand même à court d'arguments, et quand on est à court d'arguments raisonnable et fondé, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? À détruire l'adversaire. Et pour le détruire, il n'y a pas d'autre solution souvent que de le déconsidérer, et on en vient très vite à l'insulte.
Donc vous reconnaissez que le ton s'est durci, même si on n'arrive pas aux extrémités d'autrefois, le ton s'est durci.
Le ton s'est durci parce que le climat politique s'est durci. J'allais dire, quand vous avez eu les Gilets jaunes, quand vous avez les Insoumis d'un côté, le Rassemblement National de l'autre, qui ne sont pas des partis au langage toujours très châtié, il est normal que le vocabulaire d'expression des femmes et des hommes politiques, notamment de ceux qui sont dans l'hémicycle, monte d'un ton.
Mais Didier Mauss, justement, l'arrivée de ces nombreux élus du Rassemblement National et de la France Insoumise, deux partis qualifiés de populistes, ça inquiétait un certain nombre de commentateurs. Est-ce qu'ils se comportent si différemment des autres élus appartenant à des formations habituées à siéger en nombre à l'Assemblée Nationale, aussi bien la France Insoumise que le Rassemblement National ?
Ils ne se comportent pas du tout de la même façon pour l'instant, depuis le mois de juillet, parce qu'ils ne visent pas le même électorat lors des élections suivantes et qu'ils n'ont pas la même culture politique. Du côté des insoumis, il y a cette culture que Jean-Luc Mélenchon incarne merveilleusement, d'une certaine manière, c'est-à-dire une culture de révolte, une culture souvent trotskiste, une culture qui consiste à utiliser le mouvement populaire pour faire avancer ses idées. Et c'est une culture que l'on trouve classiquement dans toute la partie la plus à gauche de la gauche française, mais aussi de l'étranger. Le Rassemblement National, c'est différent parce que leurs espoirs de gagner encore un peu plus reposent sur le fait qu'il faut qu'ils rallient la droite modérée. Les électeurs du Front National, on a fait le plein de l'extrême droite. Donc si on veut arriver à en avoir un peu plus, il faut prendre les électeurs de LR, peut-être une partie un jour des électeurs de M. Macron, ça s'appelle je crois Renaissance en ce moment. Et donc il faut devenir peut-être un petit peu un vieux notable de la Troisième République
d'où
ou de
la cravate.
4e. D'où la cravate, d'où le complet, d'où un vocabulaire qui est assez raisonnable et d'où l'attitude extraordinairement tutélaire de Marine Le Pen. J'allais dire, le Rassemblement National a la culture de la discipline et du chef. Bon, et on le voit très bien aujourd'hui.
Adrien Quatennens, après avoir reconnu avoir donné une gifle à sa femme, a démissionné de ses fonctions à la France Insoumise, mais reste député, ce qui choque pas mal de gens, dont Aurore Berger, la patronne des députés macronistes. Mais est-ce qu'on peut priver un député de son mandat dans une démocratie ?
Non, on ne peut pas priver un député de son mandat. Le député est élu par le peuple. Il est élu pour nous représenter, pas uniquement les électeurs de sa circonscription, mais il participe à la représentation globale de la nation, et donc on ne peut pas le priver de son mandat, sauf si il était condamné à une peine pénale le privant de ses droits civiques, qu'il n'aurait plus le droit, par exemple, de se présenter, et que cette décision devenue définitive serait sanctionnée par le Conseil constitutionnel qui prononcerait la déchéance du mandat parlementaire. Bon, très honnêtement, vous voyez que la succession d'étapes est compliquée. Non, il y a simplement deux sanctions possibles, mais aucune des deux n'est applicable en l'espèce. Bon, un, c'est que le groupe politique auquel appartient le député lui dise « Bah écoute, tu vas un petit peu trop loin et on te met en dehors du groupe ». Ça, c'est une décision totalement privée du groupe. Et la deuxième, c'est que s'il tient des propos désobligeant dans l'exercice de son mandat parlementaire qui va un peu trop loin, y compris en termes d'insultes, le bureau de l'Assemblée nationale prononce une sanction, mais qui est une sanction disciplinaire. On le privera d'une partie de son indemnité, on le privera de parole, etc. pendant quelques temps. C'est arrivé, on a eu quelques cas. Mais en tout état de cause, personne à l'intérieur de l'Assemblée nationale n'a le pouvoir de lui dire « Vous n'êtes plus député ». Non, c'est le peuple qui a ça. Et nous ne sommes pas dans une situation où il y aurait une procédure de responsabilité des députés devant leurs électeurs, ce qu'on appelle le recall en américain. Jean-Luc Mélenchon, à un moment, voulait qu'on l'institue. On ne l'a toujours pas institué. Donc, très honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un conflit dramatique. C'est un comportement qui, du point de vue moral et éthique, est absolument anormal. Mais c'est un conflit privé, c'est pas un conflit public.
La demande d'exemplarité qui concerne le personnel politique, est-ce que c'est si nouveau qu'on le dit ?
Les scandales, les problèmes d'argent ou autres, font partie de l'histoire de la République. Bon, et de toutes les démocraties, on en a eu partout. Il y a deux types de scandales, ou d'affaires, pour être plus neutre, et ne pas monter moi-même dans les tons un peu forts, qui ont toujours rythmé toutes les démocraties. Un, ce sont les affaires financières. Deux, ce sont les affaires de mœurs. Parce que c'est la nature humaine. Et c'est en réalité quand même le grand avantage de la démocratie, c'est qu'on ne peut pas les cacher. Dans une dictature, si vous avez des situations de ce type, elles sont mises sous le tapis et elles ressortent que 10, 20 ans, 30 ans après, sauf coup d'État. C'est ce qu'on voit par exemple dans certains pays d'Afrique, c'est ce qu'on risque de voir un jour en Chine. De ce point de vue-là, la démocratie est nettement meilleure, en tout cas de mon point de vue, que n'importe quelle dictature.
Mais si on parle si souvent aujourd'hui de violence conjugale, par exemple, c'est quand même lié à la parité qui a contribué à faire changer les règles.
Les règles des relations hommes-femmes, dans le milieu politique, comme dans beaucoup d'autres milieux, le milieu artistique, le milieu culturel, peut-être même le milieu de la presse, vous le savez mieux que moi, les règles ont changé. Moi, il y a 50 ans que je m'intéresse à la vie publique, on n'avait absolument pas le même type de relation, ne serait-ce que parce qu'il y avait très très peu de femmes qui avaient cette responsabilité d'élus et de décideurs. Et donc, je me souviens d'un livre qui avait été écrit il y a bien longtemps par Bernard Chenot, qui a été ministre de la Santé du temps du général de Gaulle, et qui, évoquant la constitution de son cabinet, disait « il faut quelqu'un pour s'occuper de la presse », on ne disait pas la communication à la presse, et il disait « il faut si possible que ça soit une femme, jeune, blonde et jolie ».
Oui, on ne pourrait plus le dire aujourd'hui.
On ne pourrait même pas l'écrire, il l'avait écrit.
Merci Didier Mauss. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Maurice Gourdeau-Montagne.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Maurice Gourdeau-Montagne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplomate, vous avez été directeur de cabinet d'Alain Juppé à Matignon, conseiller diplomatique de Jacques Chirac à l'Élysée et son sherpa pour le G8. Vous avez été ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine. Et enfin, secrétaire général du Quai d'Orsay. Vous avez donc passé 25 ans dans la proximité de 4 présidents de la République différents, ce qui rend vos mémoires qui viennent de paraître tout à fait passionnantes. Elle s'intitule « Les autres ne pensent pas comme nous ». C'est paru chez Bouquet. Un Allemand, dites-vous, ce n'est pas un Français qui parle allemand.
Effectivement, je crois qu'on a trop tendance à se projeter, à projeter sa vision du monde sur les autres. Et ce qui m'a inspiré aussi, c'est un jour, je voyais un professeur d'histoire à Cambridge, Julian Jackson, qui avait écrit un livre sur la résistance française. Et je lui avais dit, mais pourquoi ? Il m'avait dit, mais c'est très important parce que les Anglais doivent comprendre, eux qui n'ont jamais été envahis, ils doivent comprendre ce que c'est que de vivre sous la botte d'un pays étranger, ce qui est le cas de la plupart des pays du continent européen. Et donc, il faut essayer de se transposer, de rentrer dans la vision, l'expérience, les émotions des autres.
Alors, est-ce que c'est parce qu'un Allemand, ce n'est pas un Français qui parle allemand, est-ce que ça pourrait expliquer qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est accusée par plusieurs dirigeants européens de faire encore partie du gouvernement allemand ?
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est allemande. Elle est de la CDU. Donc, la CDU n'est pas au pouvoir en Allemagne en ce moment, puisqu'on sait que c'est le SPD avec les Verts et les libéraux. Donc je crois que c'est un reproche qui est inexact. Mais elle a une vision du monde, une vision de l'Europe, une vision de la construction européenne, une vision de la défense européenne. Elle a été ministre de la Défense, qui est certainement influencée par son expérience et par la vision que les Allemands ont de notre continent.
Mais sa vision du gaz, par exemple, serait aussi influencée par l'idée que les Allemands se font du gaz.
Les Allemands ont une position sur le gaz, sur la manière de coiffer le prix du gaz, qui n'est pas la nôtre, et elle a une vision qui est un peu à mi-chemin. Donc je pense que le rôle d'Ursula von der Leyen est par définition de faire la synthèse des positions des uns et des autres, et de proposer des solutions, mais il est indéniable qu'on est, quoi qu'on fasse, également influencé par son passé, sa vision, ses émotions, son expérience.
Le Conseil annuel des ministres de France et d'Allemagne, des ministres franco-allemands, comme on dit, a été annulé pour la première fois depuis qu'il a été institué en 2003. Vous connaissez très bien l'Allemagne. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que c'est grave ?
C'est la décision d'annuler un Conseil des ministres franco-allemands qui est essentielle pour faire le point et pour donner les impulsions sur les coopérations, repérer ce qui ne va pas, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Et si la décision a été prise, c'est parce que la situation est très sérieuse, non pas tant entre la France et l'Allemagne que sur l'ensemble des sujets à traiter, qui n'étaient sans doute pas assez mûrs pour pouvoir les entériner au cours d'un sommet. Donc, il était donc nécessaire sans doute de se concerter encore un peu plus avant d'arriver au sommet, parce que sinon c'est du temps perdu de parler sur des sujets qui ne sont pas assez élaborés. Alors on sait qu'il y a les sujets de défense, l'Allemagne s'engage plus qu'elle ne l'a jamais fait. On lui reproche, en ce qui nous concerne, de le faire trop avec les Américains. Mais il y a des projets de long terme qui nécessitent qu'on fasse avec ce qui est sur étagère, si je puis dire. C'est l'achat des fameux F-35 pour remplacer les Tornados qui portent l'arme nucléaire et qui sont stationnés en Allemagne. Il y a aussi un projet franco-allemand. Nous verrons quels sont les engagements allemands. Nous-mêmes, nous essayons de les porter le plus loin possible. Il y a le sujet énergétique. Vous avez vu que le président Macron a décidé avec les Portugais et les Espagnols de créer, depuis Barcelone, sous la Méditerranée, une voie verte, une voie d'énergie verte, qui va contre un projet que les Allemands essayaient d'avoir, parce qu'il faut qu'ils substituent au gaz russe d'autres sources d'approvisionnement, en gaz notamment, gaz naturel liquéfié, qui serait passé par les Pyrénées à travers la France, un pipeline. Nous n'étions pas d'accord. Les discussions sont toujours difficiles. Je crois qu'il y a entre la France et l'Allemagne un point essentiel, c'est que nous partons toujours de points de vue divergents, mais que la volonté politique de nous rapprocher existe. Et que pour cela, il y a des institutions franco-allemandes qui ont été éprouvées. La relation franco-allemande, je l'ai toujours appelé un combat de chaque jour. Et donc nous sommes dans ce combat de chaque jour et nous allons nous retrouver certainement assez vite pour pouvoir conclure sur des projets communs qui porteront l'Europe.
Vous parlez de relations, mais le couple franco-allemand, j'ai l'impression qu'il n'existe plus depuis François Mitterrand et Helmut Kohl. Au fond, depuis que l'Allemagne est devenue plus puissante politiquement que la France, sur la scène internationale notamment, après la réunification au fond.
Alors c'est vrai qu'il y a sans doute un déséquilibre aujourd'hui, une asymétrie entre la France et l'Allemagne depuis l'unification. Sans doute, il y a aussi le fait que nous avons reconnu, nous Français, qu'il y avait plus de population allemande et qu'elle est plus représentée au Parlement européen, il y a plus de députés. On parle de couple, surtout en France. C'est un mot que les Allemands n'utilisent pas, c'est un mot un peu romantique, un peu sentimental. Moi, je parlais plutôt d'attelage. Un attelage, ça peut être deux animaux différents. L'essentiel, c'est que l'attelage tire dans la même direction. Et cette image d'attelage, en allemand, répond bien, je dirais, à la nécessité. L'équilibre de l'Europe repose sur le franco-allemand. Je rappelle qu'à nous deux, nous représentons aussi 47% des engagements de la zone euro. Donc, nous partons de points de vue divergents, nous nous rapprochons par une volonté politique, nous entraînons les autres. L'important aussi, c'est de regarder les autres Européens. Et nous voyons qu'aujourd'hui, l'Europe centrale et orientale a pris un leadership, notamment dans la question de la guerre en Ukraine. Il est donc important de rééquilibrer l'ensemble. Il y a une évolution des partenaires suédois, il y a eu les élections en Italie. Je crois que tout ça se repositionne, mais l'Europe existe bien, c'est difficile, et la France et l'Allemagne vont continuer à jouer leur rôle. De ce point de vue, je reste très confiant par-delà les difficultés, parce que nous avons besoin les uns des autres, y compris dans un déséquilibre, mais méfions-nous d'avoir trop de sentiments, ne pensons surtout qu'à nos intérêts.
Oui, c'est comme c'est bien dit, dans un langage diplomatique. Maurice Gourdeau-Montagne, on fait juste une pause, on se retrouve juste après, on va évidemment évoquer la guerre en Ukraine.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Maurice Gourdeau-Montagne qui publie « Les autres ne pensent pas comme nous ». Ce sont vos mémoires de diplomate et Dieu sait si votre carrière a été longue et riche. La Russie et l'OTAN aujourd'hui à couteau tiré depuis l'invasion de l'Ukraine. Comment en est-on arrivé là pour vous? Parce que vous rappelez dans votre livre que l'année 2006 a marqué le point culminant du rapprochement entre la Russie et le monde occidental. Et vous y étiez, hein, vous étiez au sommet de Saint-Pétersbourg, Chirac, vous avait envoyé en Russie, même proposé une protection croisée de l'Ukraine assurée par l'OTAN et la Russie à l'époque.
On en est arrivé là, puisque c'est la question, certainement parce que lors de la chute de l'Union soviétique, nous n'avons plus pensé au fait que ceux qui étaient en face de nous étaient d'anciens soviétiques. Et que donc leur frustration, leur ressentiment d'avoir vu s'effondrer tout un monde dans lequel ils avaient été élevés, pouvait demeurer. Il fallait donc créer de la confiance. La confiance, ça se crée par des coopérations économiques, nous avons essayé. L'ampleur des travaux à engager était immense. Dans l'ancienne URSS, les 15 républiques, l'URSS était disloqué en 15 républiques, vous aviez toute l'Europe centrale et orientale qui avait été occupée, c'était le pacte de Varsovie et le fameux Comecon de l'époque, il fallait reconstruire. On a laissé de côté la question sécuritaire. Et d'année en année, nous n'en avons pas parlé et on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un vide de sécurité au centre de l'Europe. On a essayé de créer cette confiance. Je raconte dans mon livre le G8 de Saint-Pétersbourg où le président Chirac avait voulu faire que ce soit un grand succès pour les Russes. Nous avions parlé de non-prolifération, nous avions parlé de lutte contre les maladies infectieuses, d'éducation, d'énergie. Mais il y avait une question qui restait pendante, la question sécuritaire. Or, la nature a horreur du vide. C'est un peu comme des réactions chimiques, si vous voulez. À un certain moment, il faut pouvoir parler de sécurité. Les réclamations des uns et des autres ne sont pas les mêmes, mais elles sont légitimes. Elles répondent à une perception de la propre sécurité de chacun. Et donc, ce que nous n'avons pas fait, c'est, nous, Français et Allemands en particulier, et peut-être d'autres Européens, c'est d'aller dire aux Américains, puisque ce sont les seuls que les Russes regardent comme des égaux, de leur dire « mettons-nous autour d'une table, il y a un vrai problème ». Pendant ce temps-là, l'OTAN avançait. Il était normal que les républiques baltes, qui étaient des anciennes républiques soviétiques, qui avaient été effroyablement exploitées avec des déportations par l'occupation soviétique, puissent avoir entré dans une architecture de sécurité. Il était important aussi que les pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie de l'époque puissent le faire aussi. Mais l'Ukraine, ça devenait plus délicat. Et d'ailleurs, des grands stratèges américains, Kissinger, Brzezinski, avaient dit « Attention, c'est pas un pays comme les autres. C'est un pays à la frontière de la Russie. C'est un pays qui a appartenu à la Russie. Donc, il faut éviter ce qui serait perçu comme une provocation. » Kissinger avait prononcé ce mot lui-même. Nous n'avons pas fait attention. Et il s'est créé un abcès, finalement, au centre de l'Europe. Nous n'avons pas réglé le problème. Et Poutine lui-même a dit que ce serait une provocation en 2007. En 2008, l'OTAN, par négligence et par, je dirais, manque d'écoute de ce que les Russes pouvaient demander, que ce soit abracadabrant ou pas, il fallait en parler avec eux, eh bien, nous avons décidé que l'Ukraine et la Géorgie feraient partie de l'OTAN. Il y a eu ensuite la guerre en Géorgie, il y a eu ensuite l'Union
Quelques mois plus tard.
Quelques mois plus tard, réaction russe aussitôt, parce qu'il y avait une épée de Damoclès, selon les Russes, avec cette décision de mettre l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, même si la décision avait été suspendue à la demande des Français et des Allemands. Ensuite, vous avez eu l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Vous aviez ce qui déplaisait fortement aux Russes, le fait qu'en Ukraine, une partie du pays se rapprochait de certains idéaux démocratiques qui sont les nôtres. Donc la Russie voyait l'Ukraine s'éloigner. Raison de plus pour parler des problèmes de sécurité, ce que nous n'avons pas fait. 2014, vous connaissez l'histoire, annexion de la Crimée, entrée dans le Donbass, ensuite les accords de Minsk non appliqués, et 2022, la guerre, et nous en sommes là.
Mais vous dites ce que nous n'avons pas fait, vous avez essayé, vous, Maurice Gourde-Montagne et Jacques Chirac, qui en étaient à l'origine, ils vous avaient envoyé, je l'ai dit, en Russie, proposer une protection croisée de l'Ukraine, une sorte de neutralité, au fond, assurée, par l'OTAN et par la Russie. Et quand vous allez aux États-Unis, vous en parlez à Condoleezza Rice, à l'époque la ministre des Affaires étrangères du président George W. Bush, et elle vous dit « Oh là là, la France a déjà essayé de bloquer la première vague d'adhésion à l'OTAN. » Là, on parle des anciens pays du pacte de Varsovie. « Vous n'allez pas nous empêcher de la deuxième vague. » Et là, elle sous-entend la Géorgie, l'Ukraine et les autres pays qu'on peut imaginer.
Effectivement, il s'est passé exactement ce que vous venez de rappeler. Lorsque j'ai entendu Condoleezza Rice dire « Les Français, ça commence à bien faire, vous bloquez effectivement l'expansion de l'OTAN, vous avez déjà essayé de le faire, vous allez continuer, et c'est inacceptable », j'ai compris que l'intention américaine était de faire cela. Ce qui était grave, c'est que pendant ce temps-là, tous les accords qui avaient existé du temps de la guerre froide étaient en train de devenir caduques. Les accords sur les forces conventionnelles...
Le contrôle des armements.
Ce qu'on appelle en général le contrôle des armements, les forces nucléaires, les forces conventionnelles, ce qu'on appelait le ciel ouvert, tout ce qui était contrôle, tout ce qui était mesure de confiance. Et donc, il n'y avait plus rien pour savoir ce que l'autre pouvait faire. Nous perdions le fil avec les Américains, avec les Russes, et les Américains perdaient ce fil et ne décidaient pas de le reprendre en main. Et donc, notre sécurité dans cette affaire dépendait largement de ce que les Américains décideraient ou non. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est la raison pour laquelle nous en sommes là.
Nous n'avons pas compris ce qui était dans la tête des Russes à l'époque, d'après ce que vous nous dites, Maurice Gourde-Montagne. Et peut-être que nous ne comprenons pas ce qui est dans la tête des Chinois aujourd'hui. Vous avez été ambassadeur de France en Chine, vous parlez un peu chinois, vous connaissez très très bien ce pays. Et vous expliquez dans ce livre pourquoi Pékin est si sensible sur la question de Taïwan. Vous dites qu'il faut s'imaginer une situation où le régime de Vichy aurait créé à la libération un État parallèle à la France libérée sur une île voisine, la Corse par exemple, que cet État aurait survécu à la mort du maréchal Pétain, existerait toujours et revendiquerait d'être la France. C'est ça pour vous la situation taïwanaise?
Alors j'essaie de faire comprendre ce que c'est cette situation taïwanaise, parce que c'est très difficile pour nous de nous dire mais voilà une île qui se développe comme un pays démocratique, pourquoi ne serait-elle pas indépendante? Alors j'ai pris cette comparaison qui est un peu osée, parce que le maréchal Chiang Kai-shek s'était battu contre les Japonais. Et en l'occurrence, Pétain ne s'est pas battu contre les Allemands, du moins pendant la Deuxième Guerre mondiale. En l'occurrence, ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'il y a pour Pékin un problème de concurrence de légitimité. Pour les Chinois de Pékin, la seule légitimité chinoise qui peut exister, c'est à Pékin qu'elle se trouve. Quand on est à Taïwan, on estime qu'on est aussi toute la Chine, et donc on a une revendication de légitimité pour l'ensemble de la Chine. Alors ça crée une situation très difficile. Je rappelle néanmoins qu'en 1972, enfin le général de Gaulle en 64, puis ensuite les Américains en 72 jusqu'en 79, et toute la communauté internationale qui reconnaissait Taïwan aux Nations Unies a décidé d'aller reconnaître Pékin comme seule entité légitime de la Chine. Donc il y a dans cette situation quelque chose de bien particulier. Taïwan n'est plus reconnu internationalement que par une quinzaine de pays. Le reste du monde reconnaît Pékin. La légitimité est à Pékin. Est-ce à dire qu'il faut laisser Pékin mettre la main violemment sur Taïwan pour l'unification de la Chine? C'est une autre affaire. La vraie question, c'est est-ce qu'on ne peut pas revenir au statu quo qui existait depuis les années 90, selon un accord qui s'appelle l'accord des deux rives? Il se trouve que le parti au pouvoir à Taïwan a changé, qu'il y a maintenant un parti qui se dit indépendantiste. Il n'a pas proclamé son indépendance, l'indépendance de Taïwan. Ce serait évidemment le chiffon rouge qui déclencherait la guerre. Je crois que les Chinois, entre eux, pourront peut-être trouver des voies pour s'entendre. Nous en sommes encore loin. Je pense que petit à petit, et on l'a vu déjà après la visite de Mme Pelosi, Pékin va essayer d'étouffer Taïwan, d'éroder la souveraineté de Taïwan petit à petit. Est-ce qu'ils ont déjà franchi la ligne médiane, comme on l'appelle, dans le détroit de Taïwan, qui fait 180 km, ils ont franchi. Ils ont violé l'espace aérien de Taïwan. Là, est-ce qu'ils iront jusqu'à la ligne des 12 000 marins? Là, Taïwan a dit qu'ils interviendraient, qu'ils saisiraient les bateaux qui vont le faire. on est toujours à la merci d'un accident, parce qu'il y a de plus en plus de garde-côtes, on les appelle comme ça, dans le Détroit. Donc la situation devient inflammable, elle est dangereuse, mais politiquement, il faut avoir en tête que l'arrière-plan de tout cela, c'est une concurrence de légitimité entre Pékin d'un côté et Taïwan de l'autre pour dire « je suis la seule Chine ».
Merci Maurice Gourdeau-Montagne. Je recommande votre livre, hein. « Les autres ne pensent pas comme nous ». Ça vient de paraître chez Bouquin et c'est très très éclairant sur la situation internationale. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Sylvie Maton. On va parler de la première femme qui, il y a 50 ans, a détourné un avion toute seule.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Il y a 50 ans, une femme armée d'une carabine détournait un avion de ligne, le Paris-Nice. C'était la première fois qu'une femme seule détournait un avion. Elle l'a payé de sa vie, mais quelle n'a pas été la surprise de tout le pays quand on a appris ensuite qu'il s'agissait de Danielle Craven, la femme de Georges Craven, le futur créateur de la cérémonie des Césars, et que le déclic qui l'avait conduite à cet acte de piraterie aérienne, c'était Les Aventures de Rabbi Jacob, le film de Gérard Houry avec Louis de Funès, dont son mari était l'attaché de presse, qui sortait ce jour-là le 18 octobre 1973 et qu'elle voulait qu'on retire des cinémas. Sylvie Maton, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été comédienne, journaliste, écrivain, scénariste et commissaire d'exposition pour votre défunt mari, le regretté Charles Maton. Vous avez publié cette semaine une tribune dans l'Obs sur cette histoire insensée. Danielle Craven était votre amie et vous dites qu'elle n'était pas folle. C'est vrai qu'on peut le penser.
Elle n'était absolument pas folle, elle était exaltée. Bon, elle a écrit une lettre de 3 pages expliquant les raisons de son geste. Il faut se souvenir que la guerre du Kippour a démarré le 6 octobre, donc quelques jours auparavant, enfin une semaine auparavant.
Oui, le film est sorti en pleine guerre du Kippour, ce qui n'était évidemment pas prévu. Or, il parlait des rapports entre les Juifs et les Arabes.
Voilà, donc pas prévu du tout. Et elle assistait chez elle à des dîners de communication, à des dîners de publicité qui concernait donc la sortie du film. Et elle entendait des propos qui la révoltaient et qui la révulsaient. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'argent engagé pour que l'on puisse retarder la sortie. Elle considérait que la sortie de ce film était une indécence. Et d'ailleurs, il faut se souvenir d'une chose, c'est que Danielle Thompson, donc la fille de Gérard Houry, co-scénariste avec son père du film, partait en commando avec des copains à elle pour décoller les affiches du film, ce qui nous montre bien qu'il y avait quand même un souci.
Elle aussi, Danielle Thompson.
Alors qu'elle était partie prenante dans le film, elle était co-scénariste donc avec son père. Et parce, bon, d'une part, il recevait sans doute des menaces, certainement, mais il y avait effectivement quelque chose d'indécent au moment de cette guerre sanglante. Et donc, Danielle était révulsée par tellement d'autres choses. Je pense
On va revenir, mais il faut se souvenir qu'elle a fait poser l'avion à Marseille pour faire le plein de kérosène afin d'aller au Caire, en Égypte, qui était en guerre avec Israël à ce moment-là. Elle a fait libérer tous les passagers. Elle n'est restée qu'avec le commandant de bord et le chef de cabine. Elle a demandé à manger et ce sont évidemment des policiers qui sont montés dans l'avion. Elle a été abattue de sang-froid. Vous parlez d'un crime d'État, Sylvie Maton, mais c'était le traitement que l'on réservait à l'époque aux pirates de l'air. Ça ne choquait personne. On ne pouvait pas menacer de mort impunément des passagers, le personnel des avions de ligne. Ça s'était souvent terminé par des carnages, par des morts et des blessés. Et c'est parce que l'on réagissait au fond systématiquement par la manière forte que les détournements d'avions ont fini par s'arrêter, non ?
Mais alors pas du tout. En fait, c'est la première fois que sur le sol français, on abat un pirate de l'air et notamment une pirate de l'air. C'est la première fois qu'il y a un détournement d'avion commis par une femme seule. Il y a eu des commandos palestiniens dans d'autres pays. Mais là, en l'occurrence, c'était une femme seule qui avait des exigences tout à fait originales, on peut dire. C'est-à-dire...
Mais est-ce qu'on savait qui elle était ?
Alors, c'est bien ça, le souci. Il se trouve qu'après avoir lu cet article de Libération donc cet été, ça a fait remonter en moi tous ces souvenirs qui étaient enfouis. Et j'en étais restée, comme tout le monde... Ah, il y a un mensonge d'État parce que ce n'était pas un cas de légitime défense. Elle n'a jamais mis en joue le tireur d'élite. Elle n'a jamais tiré la moindre balle. Mais il y a un second mensonge d'État. Effectivement, le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, toutes les autorités policières savaient qui elle était. Ils ont su cela très tôt. Et Charles Craven, le fils aîné de Georges Craven, reçoit un coup de fil de la part du secrétariat de son père, lui disant « Danielle a fait une connerie, foncez à Marseille, allez à l'aéroport de Marignane et rappelez-nous, on vous en dira davantage ». Évidemment, il n'y a pas de portable à ce moment-là. Charles prend sa voiture vers 13h et c'est en chemin à la radio qu'il entendra, comme moi, comme plein de gens, égrené au fil des heures, qu'il y a eu un détournement, que le pirate de l'air est une femme, que la femme a été tuée et qu'elle s'appelle Danielle Craven. Mais en fait, l'ordre a été donné, et ça je l'ai découvert récemment en parlant avec Charles il y a 3 semaines, l'ordre a été donné de l'exécuter de sang-froid en sachant pertinemment qui elle était.
Elle dit dans la lettre qu'elle a laissée, qu'elle avait laissée à l'aéroport, hein, avant même d'embarquer dans cet avion, qu'elle agit contre l'égoïsme, le fric, la politique, l'indifférence et la théorie de Peter, qui veut, tout le monde le sait, que ce soit des incompétents qui se retrouvent à des postes de responsabilité. On peut dire qu'a priori, il y a toutes les raisons, effectivement, de lutter contre l'égoïsme, le fric, la politique, etc. Mais ce sont ces revendications qui peuvent paraître quand même absurdes, pardonnez-moi de le dire. Pendant 24 heures, elle demande que personne ne se serve de sa voix. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les Français se ruaient sur les stations-service pour faire le plein, exactement comme c'est arrivé récemment, hein, puisque vous l'avez dit, 2 jours avant, pendant la guerre israélo-arabe, les pays de l'OPEP avaient décidé d'augmenter de 70% le prix du baril. C'était le premier choc pétrolier, alors elle voulait que toute la France aille à vélo. C'est très gentil, mais effectivement, on peut dire, comme l'a dit à l'époque le préfet de police de Marseille, hein, il a dit qu'elle était folle. De même, elle avait demandé que le président de la République, Georges Pompidou, renvoie son premier ministre Pierre Messmer et son ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, pour incompétence. Or, vous le dites dans votre article, Sylvie Maton, elle les connaissait bien tous les deux, elle dînait très souvent avec eux, chez les Craven.
Absolument, ils dînaient à la table des Craven, ils étaient invités également dans les grandes soirées, les grandes réceptions que Georges Craven organisait depuis les années 50, hein, Georges Craven était le Manitou de ce qu'on appelait à l'époque le Tout Paris.
C'est cette femme qui fréquente le Tout Paris, qui fréquente des membres du gouvernement, qui fréquente le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, qui prend un avion en otage.
Oui, parce qu'elle était justement très, très bien informée et elle sait des choses. Alors, il se trouve qu'à l'époque, donc j'entends cette information, et puis un an après, Georges Craven porte plainte contre l'État. C'est un ami de ma famille, Maître Alberno, grand avocat, qui s'occupe de l'affaire. Il savait à quel point j'avais été touchée par la mort de Daniel. Il me met en contact avec Georges Craven pour l'écriture d'un livre. Nous avons 2 entretiens. Au 3e entretien, il me dira qu'il arrête tout. Je pense qu'il n'aurait pas fait la même carrière s'il n'avait pas tout arrêté, effectivement. Mais j'ai eu entre les mains tout le dossier juridique avec les procès-verbaux, les verbatims, etc. Et surtout, je suis allée chez le steward, qui était donc son otage qu'elle avait gardé avec elle dans la cabine de l'avion, et qui, donc deux ans après, était encore choqué de toute cette histoire. D'abord, il avait éprouvé une immense sympathie pour Daniel. Il avait entendu ses confidences de ses 3 dernières heures de vie. Elle lui avait dévoilé pas mal de choses que je connais, concernant les combines d'argent, ça englobe plein de choses. Elle était devenue un brûlot, c'est-à-dire que cette femme qui passe de la révolte, du sentiment de révolte et de révulsion à un acte téméraire aussi incroyable, enfin qui demande quand même un sacré sang-froid, quoi. Aller chez un armurier pour acheter la carabine en question, enfin faire tout cela sans
prendre en otage tous les passagers d'un avion.
Ah oui, non, mais ça, les passagers sont descendus tout de suite et l'immense majorité n'a pas su que
ce qui se passe. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient été détournés.
Ils se sont rendus compte qu'ils avaient atterri à Marseille et pas à Nice, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une femme dans les toilettes au fond de l'avion avec une carabine 22 long rifle à canon court. Voilà. Et d'ailleurs, le steward, je pense qu'il aura vécu toute sa vie avec cet immense regret. Quand il est arrivé près d'elle dans les toilettes, elle a demandé à une hôtesse de l'air qu'elle aille le chercher. En fait, à ce moment-là, elle ne tenait qu'un pistolet d'alarme. Et là, il a souri, il lui a dit « Vous pensez vraiment nous faire peur avec ça ?» Et c'est à ce moment-là qu'elle a sorti la carabine qu'elle avait remontée, hein, en 3 parties, qu'elle avait remontée donc dans un sac à ses pieds. Et s'il n'avait pas souri à ce moment-là, il aurait pu... rien de tout cela ne serait arrivé.
Merci Sylvie Maton. Je rappelle que votre tribune est parue dans l'Obs.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine et parvenu à son terme. On se retrouve demain matin avec Christophe Guiluy, l'auteur de La France périphérique. Ce sera mon premier invité demain matin. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1 en compagnie de Pierre de Villeneuve. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric.
Quel est le programme ?
Alors nous avons la politisation de l'affaire Lola, l'accord impossible avec les 27 au niveau européen sur notamment la question de l'énergie. Nous parlerons aussi de l'Ukraine avec cette armes, dernière arme du Kremlin, en l'occurrence les drones à Bakou. Et puis nous ferons un tour au Mondial de l'automobile.
Merci Pierre, bonne émission.
Merci.